place publique.
Les animaux d'élevage sont-ils suffisamment protégés en Suisse? Deux scandales récents dans les cantons de Vaud et de Thurgovie posent la question. Nous verrons si la loi actuelle est suffisante, tout comme les moyens pour la faire appliquer. La nouvelle est tombée dans le creux de l'été il y a 10 jours, mais ça n'a rien d'anodin. Après plusieurs années d'attente, les Neuchâtelois auront un salaire minimum, 20 francs bruts de l'heure. Une première en Suisse, qualifiée de révolution en France voisine. On verra dans un instant s'il s'agit vraiment d'un chamboulement et comment cette mesure va pouvoir entrer en vigueur et surtout quand. L'école d'aujourd'hui n'est plus vraiment la même qu'hier et ne ressemble pas encore à celle de demain. En ces jours de rentrée des classes, nous prendrons un peu de recul et nous verrons quelles grandes évolutions sont intervenues dans les salles de classe en une génération. Nous tâcherons aussi d'imaginer brièvement l'avenir.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à l'enseigne de Place Publique. Vous l'avez remarqué, il y a du changement pour cette rentrée. Votre magazine d'actualité de l'Arc Jurassien est programmé désormais le mercredi au lieu du vendredi. Et on accueille nos premiers invités. Tout d'abord, Michel Rera, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Devecq.
Vous êtes membre de la commission permanente sur la protection des animaux de l'Association suisse des vétérinaires cantonaux. Et avec vous également, Jacques Bourgeois, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes conseiller national fribourgeois à PLR, mais vous dirigez aussi et surtout l'Union suisse des paysans. Bienvenue. Merci. Alors, nous parlons avec vous deux de maltraitance animale. Après que deux scandales ont récemment défrayé la chronique en Suisse, des porcs cannibales dans le canton de Vaud ou encore des chevaux morts de faim en Thurgovie, des protecteurs des animaux s'indignent. Les autorités ne feraient pas suffisamment leur travail ou n'auraient pas du moins les moyens de le faire. De plus, la loi suisse elle-même ne serait pas assez stricte. Alors, c'est vrai, Michel Rera, que les chiffres peuvent frapper les esprits. Des manquements ont constaté dans plus d'une ferme sur 7 lors de contrôles, dont 10% concernent la protection des animaux. Ça, c'est des chiffres avancés par la zone taxe Blick. Est-ce que ces histoires dont on parle, c'est l'arbre qui cache la forêt?
Alors, par rapport tout d'abord à la législation suisse sur la protection des animaux, je peux vous confirmer qu'elle protège bien les animaux et elle assure en fait leur bien-être. Elle a été totalement rénovée en 2008, donc à ce niveau-là, je pense qu'au niveau législatif, on est tout à fait en ordre. On est même dans les précurseurs au niveau de l'Union européenne. L'autre souci qu'il y a par rapport à cette législation, c'est qu'après, il faut la faire appliquer. Et c'est là que les services vétérinaires cantonaux entrent en jeu. Et là, effectivement, les ressources qui sont mises à disposition pourraient être enrichies afin d'améliorer un suivi plus intensif et plus constant des exploitations à problème. Au niveau des chiffres que vous annoncez de la Sonntagszeitung, donc sur une ferme sur 7 contrôlée, 10% en fait des manquements qui ont été observés sont dus à la protection des animaux, ça nous dit juste cela. Pour moi, ça ne me dit rien de plus, puisque au niveau d'un manquement, au niveau de la protection des animaux, ça peut aller de quelques centimètres qui manquent à une stabulation à un manque total d'eau à des animaux qui sont livrés, par exemple, durant cette période estivale en plein soleil.
Un autre signe quand même au niveau des chiffres, même si on vous comprend bien, il faut relativiser. Michel Rera, le nombre de condamnations pour violation de la loi sur la protection des animaux a atteint un niveau record en Suisse l'année dernière.
Alors tout à fait, ça c'est vrai, on est arrivé à environ 2400 procédures pénales que les cantons ont annoncées à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, ça fait une augmentation de 22%. De nouveau, il faut de nouveau voir au niveau de gravité de l'infraction, car il y a des infractions qui sont plus insignifiantes que d'autres. J'ai juste regardé ces chiffres communiqués par l'Office et par exemple, dans le cas présent, ce qui nous intéresse, c'est les animaux de rente, on a eu une augmentation des condamnations de 10%. Et environ la moitié était due à des problèmes au niveau des bovins. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire ce soir.
Jacques Bourgeois, vous êtes avec nous, vous l'avez dit à nos confrères de La Liberté lundi. Vous soulignez aussi les normes de protection des animaux en Suisse sont parmi les plus sévères au monde, carrément. On l'a vu, ça n'empêche pas des violations graves dans certains cas, vous les admettez. On a entendu de la part de Michel Rera, finalement les vétérinaires cantonaux entrent en jeu pour faire appliquer la loi qui suffit, mais qui n'ont peut-être pas assez de moyens. Comment vous réagissez à ça ?
Je dirais qu'il faut se donner les moyens, bien évidemment, des contrôles, puisque l'on a ces prescriptions qui, vous le rappelez tout à l'heure, sont les plus sévères au monde. Et je crois que M. Rera l'a précisé aussi, si on compare par rapport aux pays qui nous entourent, de l'Union européenne, on voit qu'on a des une protection des animaux, une loi sur la protection des animaux les plus sévères. Elle va être encore, je dirais, donner des améliorations aussi avec plus de place pour les porcs, pour les chèvres, pour les moutons dès le mois de septembre prochain. Donc elle est réactualisée continuellement par rapport aux améliorations qui peuvent être faites. Et dans ce contexte-là, je crois qu'on est précurseur par rapport aux pays qui nous entourent. Maintenant, je tiens à préciser que par rapport au niveau des contrôles qui ont été faits, donc preuve en est que, premièrement, les contrôles fonctionnent, et deuxièmement, la plupart de ces contrôles sont des bagatelles. Ce sont vraiment peut-être un manquement dans le report d'un journal, de l'exploitation, d'un transfert d'un animal qui n'a pas été bien mentionné. Donc il faut voir aussi l'ensemble des éléments. C'est rare et le nombre d'exploitations, c'est très minime où il y a des abus. Et s'il y a des abus, bien évidemment, il faut à ce moment-là sanctionner. Et d'autre part également, veiller à ce que ceci ne se reproduise plus, donc, c'est-à-dire de faire des contrôles plus réguliers pour ces exploitations. Mais là, je tiens à préciser que c'est vraiment, vraiment très rare que la très grande majorité des exploitations veillent au bien-être des animaux puisqu'ils travaillent avec eux.
Néanmoins, pas de fatalité dans vos propos, Jacques Bourgeois. Vous admettez que des moyens supplémentaires devraient être alloués pour ces cas spectaculaires, encore une fois, qui défrayent la chronique. Et qui ne défrayeraient pas forcément la chronique si les organisations pour la protection des animaux ne faisaient pas leur travail aussi.
Non, je crois que bon, c'est chaque canton. L'application, elle est du ressort des contrôles, elle est du ressort des cantons. Et chaque canton se doit de veiller à ce que notre législation soit respectée. Alors après, certains cantons peut-être sont suffisamment dotés, d'autres moins, mais ça c'est au canton, notre fédéralisme, à décider si oui ou non ils ont besoin de renforcer les contrôles ou pas. Mais on sait très bien que lorsqu'il y a un manquement qui a été constaté assez grave, à ce moment-là, ben, les contrôles vont se faire plus réguliers et une demande de mise aux normes est exigée.
Au niveau des cantons, oui. Ce que je peux en tout cas rajouter, c'est justement par rapport donc à l'obligation qu'on a de devoir faire des contrôles des unités d'élevage qui détiennent des animaux de rente, on a l'obligation de la faire à une fréquence d'un contrôle tous les 4 ans. Ça, c'est respecté par tous les cantons de base. Ça, c'est de toute façon, les chiffres sont là pour le prouver. Après, effectivement, il y a tout ce qui est des cas plus problématiques où on doit assurer un suivi plus intensif et plus constant de ces exploitations en problème, où là, effectivement, au niveau de la protection des animaux ou des secteurs protection des animaux des différents cantons, on arrive à la limite par rapport aux ressources qu'on a à disposition pour ces contrôles. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté du public et du politique à améliorer le bien-être des animaux. Maintenant, il faut encore donner les moyens aux services vétérinaires de pouvoir la faire appliquer totalement.
Oui, j'aimerais peut-être juste préciser une chose. Alors, les contrôles tous les 4 ans, ça concerne les prescriptions, je dirais, au niveau législatif, au niveau fédéral. C'est ces fameuses prestations écologiques requises qui débouchent sur le paiement de ces fameux paiements directs, ces rémunérations contre ces prestations. Mais il y a à côté de cela aussi toute une série de labels où il y a des contrôles. Par exemple, dans les labels bio, par exemple, c'est annuel, donc où les exploitations sont contrôlées, ce qui explique aussi parfois dans certains cantons qu'il y a peut-être un peu plus de pourcentage d'exploitations, mais qui sont, comme mentionné, généralement des manquements qui sont des bagatelles.
Est-ce qu'une manière aussi de rassurer le public ne serait pas, dernière question que je vous pose à vous deux, de mieux communiquer de la part des administrations sur les cas répertoriés, les condamnations, ou est-ce qu'il faut attendre les opérations commando?
Alors au niveau des services vétérinaires cantonaux, les contrôles et les mesures que l'on émet se basent sur le droit administratif et ses principes. Donc, ça veut dire aussi que peut-être pour le public, des fois, il a l'impression qu'on agit de manière assez lente, mais il faut comprendre que derrière, il y a des délais de procédure administrative et tout ça. Et dans ce cadre-là aussi, on doit, comme tout à chacun qui travaille dans les autorités cantonales ou fédérales, on doit travailler dans le respect de la protection des données et du secret de fonction. Ce qui fait que nous, au niveau de la communication, on est peut-être un petit peu plus muselé que des associations de protection des animaux qui peuvent plus communiquer par rapport à ça. Je tiens quand même à préciser que on a parlé là des programmes de contrôle et que c'était d'une manière assez statique, un contrôle tous les 4 ans. Là, pour la période 2017-2019, les vétérinaires cantonaux et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire des affaires vétérinaires s'est bien rendu compte qu'il faut aussi améliorer des points de contrôle. Donc, il y aura un programme de contrôle qui sera fait, donc des inspections inopinées dans des porcheries, qui sera fait en 2017 et 2019 avec un petit nombre de points à contrôler, mais de manière plus approfondie.
Jacques Bourgeois, mieux communiquer d'une manière ou d'une autre, mieux communiquer aussi sur ce renforcement dont vient de nous parler Michel Rera, par exemple.
Mais bon, mieux communiquer, je crois que la communication se fait, puisque dans la presse dominicale, l'Office fédéral de l'agriculture a communiqué le nombre d'exploitations, qu'il y avait justement une diminution de leur paiement direct pour des manquements XY. Maintenant, communiquer comme ça, brut pour point, donc il faut regarder quels sont les manquements. Et on constate que la plupart sont vraiment des bagatelles, c'est la très grande majorité. Donc si vous mettez ces informations, il faut aussi donner les détails de l'information, parce qu'autrement vous allez tronquer cette information. Et je pense qu'au niveau des contrôles, c'est nécessaire. Bien évidemment, ils se font, ils doivent se faire. Pour les exploitants, ce qui est important aussi, c'est que l'on coordonne ces contrôles pour veiller aussi à diminuer l'ensemble de la bureaucratie qui sont liées.
Michel Rera, Jacques Bourgeois, on vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints en place publique pour réagir à ces cas de maltraitance et aussi de nous expliquer ce qui existe en termes d'appareil légal et en termes de contrôle. On voit la marge de progression, on voit aussi les potentiels. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne suite de semaine.
Merci, bonne soirée.
Place publique. Gabriel Devecq.
C'est une première en Suisse et elle a déjà fait sensation dans le monde entier, notamment dans les médias de notre France voisine. Le canton de Neuchâtel a désormais un salaire minimum inscrit dans la loi à 20 francs bruts par heure. Le tribunal fédéral a levé au début du mois les recours déposés contre cette mesure après plusieurs années de suspense. Quand est-ce que la nouvelle norme doit entrer en force? Qui va en profiter? Qui sont les perdants s'il y en a? Quelles exceptions doivent être prévues? On en parle avec nos deux invités. Catherine Lobcher, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous parlez au micro, c'est parfait. Secrétaire régional du syndicat Unia Neuchâtel, merci d'être avec nous. Et en direct par téléphone du Québec, s'il vous plaît, Philippe Bauer, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes conseiller national PLR Neuchâtelois en tant qu'avocat. Vous avez aussi fait recours au tribunal fédéral contre ce salaire minimum pour défendre les intérêts de Gastro Neuchâtel. Alors, avant de discuter du quand et du comment ce salaire minimum doit être appliqué, un mot sur ce que ça représente. 20 francs bruts de l'heure au minimum pour les travailleurs du canton en 2017. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution en marche, même si c'est une première Suisse, Catherine Lobcher?
Ah non, c'est certainement pas une révolution, c'est un très bon pas dans un bon sens. C'est l'introduction d'un salaire minimum horaire brut de 20 francs de l'heure, auquel il faut ajouter un supplément pour les vacances, au minimum de 8,33%. Donc ça permet d'améliorer les salaires les plus bas de ce canton, les salaires surtout dans des branches où il n'y a pas de convention collective, mais aussi quelques salaires de convention collective qui prévoient des salaires minimaux légèrement plus bas que cela.
On en touchera un mot dans le Jura aussi, c'est bientôt le cas, il y aura probablement un projet de salaire minimum. Mais pour le canton de Neuchâtel, Catherine Lobcher, ça représente combien de personnes?
Ça représente un nombre relativement petit. On estime en 2010-14, on estimait à peu près à 5% de la population qui touche actuellement dans le canton de Neuchâtel des salaires inférieurs à 20 francs bruts de l'heure. Ce sont surtout des femmes, ce sont surtout des gens qui travaillent dans le secteur tertiaire et ce sont aussi surtout des gens qui travaillent dans des secteurs sans convention collective. Donc voilà, environ 3000 personnes au minimum qui verront leur salaire minimum, leur salaire légèrement augmenté.
Philippe Bauer, est-ce que vraiment ce salaire minimum que vous avez combattu par recours pose problème, vu qu'il touche 3000 personnes, principalement dans des secteurs non conventionnés?
Mais écoute-moi, le recours n'a absolument pas discuté du montant. Il y a vraiment là une question de principe qui se pose. Et pour moi, ce qui est très grave avec avec l'introduction de salaire minimum, c'est qu'on fait fi du partenariat social. Et j'aime entendre Mme Laubcher qui nous explique qu'il va falloir augmenter les salaires minimaux des conventions collectives, mais je lui rappelle quand même que c'est elle-même, c'est elle qui discute ces salaires minimaux lors du renouvellement des conventions collectives. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la convention collective de la restauration, par exemple, a été signée non seulement par les associations professionnelles patronales, mais aussi par les associations professionnelles syndicales, dont il y a. Alors aujourd'hui, venir nous dire, on a fait une négociation, on s'est mis d'accord sur un salaire pour les basses catégories, mais venir par le biais du droit public pour le modifier, ça fausse tout le partenariat social. En même temps, les employeurs ont donné une cinquième semaine de vacances, en même temps, les employeurs ont donné 3 jours pour la formation professionnelle, et je crois que ces avantages-là, qui ne sont absolument pas discutés dans le salaire minimum de chaque fois, peut-être contrairement à ce que les jurassiens avaient envisagé, signifie que ce qui a été décidé dans le canton est dans une certaine mesure la mort d'une certaine image du partenariat social.
Monsieur Bauer, vous savez très bien que le partenariat social dans notre canton tout particulièrement est très bien ancré et qu'il continuera de régir les relations entre partenaires sociaux et de régir aussi les conditions de travail des travailleurs. Il y a à peu près 40 à 50% de la population qui n'est pas soumise à une convention collective de travail, ce qui fait que c'est évidemment particulièrement dans ces branches-là qu'il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a quelques conventions collectives, mais elles sont minimes, et notamment la branche que vous représentez à l'hôtellerie-restauration, hein, c'est surtout en tant que responsable ou référent de Gastro Suisse que vous intervenez. L'écart entre salaire minimum horaire du salaire minimum de Châtelois et le salaire minimum horaire de la convention collective est minime. Je rappelle aussi que l'hôtellerie, c'est un bon exemple, c'était une branche où pendant des années, je me suis beaucoup occupée de cette branche depuis une vingtaine d'années, a toujours dit que les salaires très bas étaient inéluctables, que c'était impossible pour la branche de payer davantage. Eh bien, entre 2001 et 2012, il y a eu plus de 800 francs d'augmentation des salaires minimaux par un grand pas qui a été fait en 2001, en passant de 2500 francs à 3000 francs, et par l'introduction en 2012 du salaire, du 13e salaire. Donc, je pense que même dans les branches où les salaires sont pas simples à sortir, c'est vrai que dans l'hôtellerie, c'est pas simple de sortir des salaires, mais même dans ces branches-là, on trouve des solutions, et en l'occurrence, c'était des solutions conventionnelles.
Oui, mais effectivement, c'était des solutions conventionnelles que, par le biais du salaire de Châtelois, vous avez mis en bas. Et en même temps qu'il y avait ces éléments de salaire, comme vous le relevez, et ça, vous n'en avez absolument pas voulu en discuter, il y a tous les autres avantages.
Philippe Bauer, on parle quand même maintenant, il va falloir l'appliquer, hein, on ne va pas refaire peut-être tout le débat. Qu'est-ce que vous attendez, vous, au niveau de l'application? Vous nous dites, vous pointez le problème, il y a des conventions collectives avec un 13e salaire, avec une 5e semaine de vacances qui ont été octroyées, et puis maintenant, on demande encore une augmentation du salaire. Qu'est-ce que vous attendez au niveau de l'application de ce salaire minimum? Vous attendez des exceptions pour un secteur comme celui pour lequel vous êtes battu, la restauration, l'hôtellerie?
Je suis pas certain que la loi telle qu'elle a été adoptée par le Grand Conseil permette ces exceptions. Moi, ce qui me fait très souci, c'est que finalement, on paupérise encore plus un certain nombre de personnes, parce que avec des horaires qui deviendront de plus en plus des horaires à temps partiel, qui deviendront de plus en plus d'utiliser effectivement le personnel quand il y a du travail, et puis le reste du temps, ma foi, d'avoir peut-être une autre organisation dans son entreprise. Encore une fois, expliquer aussi à un restaurateur du Landron pourquoi il paye un peu plus cher que son concurrent à la Neuve-Ville, pourquoi dès lors ses prix augmenteront. Je pense que le canton de Neuchâtel, une fois de plus, a fait un pas en arrière. Et vous savez, quand j'entendais avant...
Non, monsieur Bauer, il faut quand même rappeler que dans le canton de Neuchâtel, le taux d'aide sociale est de 7%, c'est-à-dire le plus élevé de Suisse, et que cette mesure qu'on a mise en place, elle est là comme mesure de lutte contre la pauvreté, justement comme une mesure de lutte contre la pauvreté.
On va peut-être laisser finir, monsieur Bauer.
Excusez-moi.
On a parlé de redynamiser le canton de Neuchâtel, Alizée Lichtil a dit avant, je ne suis pas sûr que d'introduire de nouveau des hôtels administratifs soit une manière de redynamiser notre canton. Mais enfin, encore une fois, ceux qui seront, qui devront appliquer ce salaire et à qui ça posera des problèmes, devront prendre d'autres dispositions. Et peut-être que simplement le salaire horaire tel qu'il est prévu sera payé, mais le reste du salaire sera payé par le biais des intermédiaires.
Catherine Hopcher, on a l'impression qu'apparemment les chefs d'entreprise seraient tentés de contourner un petit peu l'esprit de la loi en faisant des horaires différents. Est-ce qu'au final, ce salaire minimum risque pas d'avoir plus de dégâts collatéraux que de problèmes qu'ils comptent résoudre?
Non, alors d'abord, les entreprises pourront faire travailler le nombre d'heures qui est prévu dans la convention collective et le salaire minimum, il est prévu à l'heure. Je pense que c'est important de rappeler que c'est des mesures de protection sociale, des mesures de lutte contre la pauvreté. Et Monsieur Bauer, vous ne pouvez pas nier que ce n'est quand même pas acceptable dans une région et dans un pays comme le nôtre que des gens qui travaillent à plein temps n'arrivent pas à vivre de manière tout à fait basique et simple de leur travail et qu'ils soient contraints d'aller demander de l'aide sociale. Je rappelle que l'aide sociale, c'est quelque chose qui est payé par tous les contribuables, donc par vous aussi, mais aussi qui est une dette, parce que quand on contracte, on reçoit de l'aide sociale, ça s'inscrit comme dette, et à partir du moment où vous revenez par chance à meilleure fortune, ça doit être remboursé. Donc, devoir aller à l'aide sociale parce qu'on travaille à plein temps, se mettre à nu devant un assistant social pour expliquer pourquoi il a droit et il a besoin d'un coup de pouce financier, c'est vraiment quelque chose que l'introduction de salaire minimum permettra d'atténuer un peu au moins. Mmh.
Oui. Philippe Bauer, vous n'avez pas l'impression que ça peut aussi provoquer, même dans les secteurs qui vont devoir mettre plus d'argent dans les salaires, un cercle vertueux avec des personnes qui arriveront un peu plus à nouer les deux bouts et qu'on retrouvera moins nombreux à l'aide sociale?
Mais écoutez, si le cercle vertueux, si vous êtes prêt à payer plus cher quand vous allez au restaurant, pourquoi pas? Maintenant, encore une fois, le débat tel qu'il a été éludé par le tribunal fédéral, Madame Lauchère nous parle de personnes qui sont à la limite. Dans le recours, une des grosses critiques qui était faite au salaire minimum était de dire le minimum vital n'est pas le même pour un de mes enfants qui vit encore à la maison et une personne qui effectivement a des charges. Le minimum vital n'est pas le même selon le montant du loyer que vous payez. Dans le salaire minimum, les critères qui ont été pris en compte sont des critères complètement égalitaires où on a simplement pris le loyer maximum et une situation maximale. Et ça, bon, je peux que le regretter que le tribunal fédéral se soit contenté d'une lecture très sommaire dans un arrêt qui est d'ailleurs mauvais.
Philippe Bauer, vous avez quand même dit...
On aurait évidemment souhaité un salaire minimum supérieur qui permette de tenir compte d'accord davantage de critères, mais vous savez que la Constitution fédérale ne permettait pas de violer la liberté économique et on ne permettait au canton que de faire une mesure de protection sociale, ce qu'il a fait en votant, et vous l'avez aussi voté, cette loi au Grand Conseil il y a quelques années.
Non, j'ai pas voté, je vous dirais aussi que dans le canton de Châtel, 60% avait refusé le principe du salaire à 4000 francs que vous souhaitiez, vous, dans notre...
Oui, mais ils ont accepté le salaire minimum neuchâtelois.
Alors, au niveau fédéral, c'est vrai, les cantons de Neuchâtel et le canton du Jura qui entrevoient cette solution l'ont refusé. Maintenant, ce salaire minimum dont vous avez dit tout à l'heure, Philippe Bauer, que vous ne contestiez pas le plancher, finalement, pourquoi il vous dérange tant alors que vous êtes finalement assez d'accord avec le fait qu'un salaire doit quand même être décent?
Parce qu'encore une fois, ce salaire minimum ne tient absolument pas compte des autres critères dans une entreprise.
Donc vous attendez une application plus large et souple qui tient compte d'autres critères. Vous allez essayer de jouer avec ça.
Vous prenez par exemple des conventions collectives qui prévoient souvent une cinquième semaine de vacances. Une cinquième semaine de vacances, en réalité, c'est 2,5% de salaire en plus. Vous prenez des conventions collectives qui prévoient d'autres avantages sociaux, comme par exemple des congés pour la formation professionnelle ou qui prévoient des avantages au niveau des assurances sociales. Et ces éléments-là, dans le cadre du salaire minimum, on n'en tient absolument pas compte. Et moi, c'est ça qui me heurte fondamentalement dans ce qui a été voté et ce principe. On ne discute que de l'élément salarial et on ne discute pas des autres éléments qui font partie d'un contrat de travail et qui font aussi partie des avantages sociaux qu'une branche peut concéder à des collaborateurs.
Quelle dérogation, Catherine Lobcher, on doit pouvoir imaginer pour ce salaire minimum? Est-ce que les éléments de calcul dont parle M. Bauer vous convainquent?
Non, alors, le tribunal fédéral a dit que le canton de Neuchâtel, la commission législative, etc., avait fait son calcul de manière très rigoureuse et que ça tenait la route. L'arrêt est très clair. Je veux dire, l'arrêt est très clair. On en est très content qu'il soit très clair. Et puis, ben, les dérogations, elles seront possibles. Ça a été prévu dans la loi pour l'agriculture, à la viticulture et aussi pour les personnes qui sont en formation ou en stage. Et je profite de rappeler que le canton de Neuchâtel vient d'édicter un certain nombre de directives et d'informations sur comment voir si c'est des vrais stages ou pas, puisque c'est un petit peu un problème qu'on a aujourd'hui dans le marché du travail.
Alors on entendait François Mathil ce matin sur les ondes d'RTN de la convention patronale de la Fédération horlogère suisse qui disait bah, finalement ça ne va pas changer grand chose pour l'écrasante majorité des employés de l'horlogerie puisque la plupart sont payés au-delà de ce salaire minimum. Par contre, pour les étudiants ou bien pour les jobs d'été, il va falloir se remettre à niveau, puis ça c'est problématique parce que ça risque de décourager des entreprises d'ouvrir ce genre de job pour justement les étudiants ou les jeunes. Est-ce que là, il y a des dérogations, on peut les imaginer?
Alors, je ne crois pas qu'il y ait des dérogations qui étaient prévues, effectivement, pour les jeunes travailleurs. À part ça, il y a énormément de gens qui cherchent du travail. Et puis, job d'été ou pas, c'est vrai que tout travail mérite salaire. Et là, le salaire minimum, ce sera 20 francs de l'heure.
Philippe Bauer, un dernier mot sur la date d'entrée en vigueur. Il y a un flou qui règne. On attend des nouvelles du canton de Neuchâtel. Des discussions sont en cours. Vous-même, vous attendez quel type de solution? On peut comprendre avec l'arrêté du tribunal fédéral que c'est possible que le salaire minimum entre en force dès publication de l'arrêt. Qu'est-ce que vous attendez, vous?
Bon, écoutez, j'ai pas à peu près une connaissance en totalité de l'arrêt. Moi, j'imagine que vraisemblablement, comme l'a dit le tribunal fédéral, ça pourrait entrer en vigueur au 1er août. Enfin, ça a dû entrer en vigueur au 1er août. Mais là aussi, il serait intéressant de voir quelles vont être les dispositions d'exécution que le Conseil d'État prendra dans le cas d'espèce.
Catherine Lobcher, une idée sur la date d'entrée en vigueur, d'entrée en force de ce salaire minimum dont on sait qu'il est maintenant inscrit dans la loi depuis le 4 août ou le 1er août?
Ouais. Bon, alors il y a eu un peu une période de jouer sur la montre en faisant ces recours. On a perdu 3 ans. C'est clair, on aimerait une entrée en vigueur tout de suite, mais je crois que c'est vraiment au Conseil d'État de prendre la décision et il le prendra, très rapidement.
Merci infiniment en tout cas à tous les deux, Catherine Lobcher, secrétaire régionale du syndicat Uni à Neuchâtel, et vous Philippe Bauer, depuis le Québec. On vous a bien entendu, malgré quelques petites fritures sur la ligne, mais rien de grave, on vous a bien entendu, on vous remercie infiniment d'avoir été disponible au bout du monde pour débattre de ce salaire minimum qui entre en force dans le canton de Neuchâtel. Bonne soirée.
Merci.
Merci et bonne soirée.
Place publique.
C'est depuis lundi la rentrée des classes pour 30 000 élèves neuchâtelois et bernois. Pour les jurassiens, c'est lundi prochain. L'occasion dans Place publique de regarder l'école d'aujourd'hui, ce qui a changé, le temps d'une génération, mais aussi à l'inverse, ce qui est resté pareil, ce qui demeure. On regardera aussi un petit peu vers l'avenir. On osera imaginer ce que sera l'école de demain. Et c'est avec vous, Steph Blaisy. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est avec vous qu'on va se prêter à l'exercice. Vous êtes responsable de l'école obligatoire de la partie francophone du canton de Berne. Alors, on va essayer de faire cette évocation avec une mère ou un père d'un élève de 11 ans qui assisterait aujourd'hui à une matinée d'école. Quels principaux changements, selon vous, pourraient les frapper immédiatement?
Alors là, vous me tendez la perche parce que vous parlez d'une mère et d'un père. On voit que l'évolution de l'école s'est beaucoup développée autour des nouveaux plans d'études romans et des nouveaux moyens d'enseignement romans. Et puis, c'est ce qu'on essaye de faire avec mes collègues romans, d'être le plus près possible, d'avoir une uniformité pour que toutes les petites têtes blondes puissent utiliser les mêmes moyens d'enseignement tout en gardant les particularités cantonales.
Dans la classe, on verrait par exemple que l'enseignante ou l'enseignant n'est plus forcément seul.
Exactement. Il y a aussi une évolution à ce niveau-là. Dans le temps, j'ai 44 ans, c'est pas si loin que ça. On parlait toujours qu'il y avait un enseignant dans la classe qui était comme un petit chef d'entreprise. Et puis maintenant, on voit une évolution où plusieurs enseignants ou d'autres logopédistes, orthophonistes ou médiateurs viennent donner un coup de main à l'enseignant pour le décharger pour l'enseignement. Et ça, c'est une aide très précieuse.
Steph Blaisy, mes questions sont peut-être un peu naïves, mais peut-être elles vont parler aux auditeurs. Est-ce qu'à la fin du cours, l'enseignant a toujours les mains sales de craie blanche?
Alors ça dépend, parce qu'il y en a qui ont toujours le bon vieux tableau noir, et maintenant on est dans un virage aussi pour le plan d'études romans, où On a introduit ce plan d'études en 2011, où nous avions parlé d'informatique dans la version transversalité des mythiques, où on essayait que l'enseignant utilise ça dans ses leçons. Et on remarque que maintenant, il y a aussi d'autres évolutions, où le tableau numérique arrive, les tablettes et les moyens d'enseignement numérique aussi. Donc, il y aura toujours du tableau noir et des écoles qui auront la possibilité d'aller dans le numérique.
Il n'y a pas d'impulsion plus forte que cela pour faire basculer les écoles au degré de l'école obligatoire vers le numérique? On encourage encore des moyens traditionnels comme tableau noir?
Alors, je ne sais pas si on les encourage, mais il ne faut pas oublier que dans le canton de Berne, l'école est communale, et puis ça a aussi un certain coût de transformer la classe
en high-tech.
En high-tech, exactement. Et ça, on doit aussi laisser la part des choses aux conseils communaux qui ont les coordonnées de la bourse pour décider si des tableaux noirs doivent être remplacés par des tableaux interactifs. Et ça, le canton de Berne, on a émis des recommandations et non des obligations, quoi.
Et les recommandations vont quand même vers un transfert technologique.
Alors ça, c'est clair qu'on essaye le plus possible d'aller vers un transfert technologique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des vieux bâtiments, il y a des nouveaux bâtiments. Pour les vieux bâtiments, c'est certaines fois très difficile de les équiper avec le Wi-Fi. Les écoles font leur possible pour essayer d'être au top, comme l'on dit, mais il faut aussi bien se dire que les enfants en connaissent déjà aussi un rayon, et ça, c'est très important pour nous de ne pas manquer ce virage.
Et dans la réalité, si je suis dans cette classe, encore une fois, papa ou si une maman est à ma place, est-ce qu'on verra des écrans partout dans les classes les plus avancées, ou est-ce que les enfants ont droit d'amener leur propre matériel, enfin, ou combien d'écrans, quelle ampleur ça peut prendre?
Alors ça, c'est comme je vous l'ai dit, ça dépend des communes. Certaines communes font carrément une salle informatique, d'autres s'équipent de chariots avec des portables, et puis ça passe d'une classe à l'autre. Alors certaines fois, il n'y a pas du tout d'écran dans la classe, et on essaye de mettre dans les recommandations d'utiliser les moyens dont disposent les élèves, parce qu'on voit qu'ils ont souvent déjà un iPhone, et quand il est utilisé pédagogiquement correctement, c'est un outil très très performant.
Est-ce que je risque d'entendre, ou j'aurai la chance d'entendre, une ou un élève réciter une poésie par cœur?
Alors oui, il y a encore des écoles qui font ça, et puis je pense que les bonnes vieilles méthodes pour apprendre une poésie sont toujours d'actualité.
Et les langues, parlons des langues, on le sait que de plus en plus jeunes maintenant, les élèves, les écoliers apprennent des langues. Comment ça se passe? La manière de l'enseigner a-t-elle évolué? On n'a pas toujours des souvenirs glorieux de certains enseignements, qu'en est-il?
Alors maintenant, on essaie justement de développer l'enseignement de la langue 2. Donc dans la partie germanophone, c'est le français, dans la partie francophone, c'est l'allemand, d'une façon un petit peu plus ludique. Et puis on espère aussi le faire en faisant parler beaucoup les élèves, parce qu'on préfère qu'ils disent « ou égard » plutôt de savoir souvent l'accusatif, datif. Et on voit que certaines méthodes plaisent ou déplaisent. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que les enfants parlent, quoi.
Et du coup, vous faites un effort pour encourager les professeurs à être le plus en phase possible avec le terrain?
Exactement. Alors, ce qu'on fait aussi beaucoup dans le canton de Berne, c'est qu'on prône des formations continues où certains enseignants ont la possibilité d'aller à Berlin pendant 2 ou 3 semaines de leurs vacances. Et là, on le fait avec la Haute École Pédagogique de Béjune. Et puis ça, c'est aussi très intéressant. Ce qu'on essaye de mettre aussi sur pied, c'est un système d'échange à l'intérieur du canton de Berne et à l'extérieur avec des partenaires valaisans, fribourgeois. Et puis, on essaye d'envoyer des élèves francophones parler l'autre langue et inversement des élèves germanophone.
Ça, c'est la chance du canton de Berne, hein, bilingue, ouais. Qui peut donc jouer sur les deux tableaux. Si vos propos ont séduit, par exemple, des parents jurassiens ou neuchâtelois, alors on ne va pas encourager à des migrations ou à une émigration, mais les ont séduits à mettre leur enfant dans une école bernoise et à déménager, ce sera d'autant plus facile avec le système Armos et puis avec aussi le plan d'études romand. De nos jours, contrairement à l'époque de la génération d'avant, la mobilité est favorisée avec des plans d'études communs.
Alors, effectivement, cette mobilité est favorisée. Les plans d'études sont communs, mais on a toujours dans chaque canton quelques spécificités, notamment dans la grille horaire. Et ce qu'on essaie aussi d'avoir, c'est une unité des moyens d'enseignement roman, comme on le dit, mais après, en gardant toujours dans chaque canton ou chaque commune l'histoire où l'enseignant peut toujours, il a une liberté, marge de manœuvre, pour enseigner aussi les coutumes de la commune ou du canton auquel il enseigne.
quelques enclaves ou quelques libertés dans cette uniformisation. Steph Blaisier, on en termine avec votre vision du futur de l'école. On a parlé de ce qui a changé en une génération. Qu'est-ce qui va changer pour les enfants des actuels écoliers ?
Alors c'est extrêmement difficile parce que personne n'aurait pu prédire que tout le monde aurait un téléphone aujourd'hui il y a une vingtaine d'années. Je vous rappelle que l'informatique date des années 80. Je pense, moi ce que j'aimerais c'est qu'on ait toujours ce métier de l'humain où l'enseignant soit toujours au centre avec l'enfant et puis qu'on n'ait pas des robots, qu'on utilise nos progrès technologiques tout en gardant une certaine humanité dans l'enseignement.
Merci infiniment, Steph Blaisier, d'être venu dans Place Publique, on le rappelle. Vous êtes responsable de l'école obligatoire de la partie francophone du canton de Berne. On vous souhaite une excellente rentrée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Bonne soirée. Et c'est tout pour Place Publique. Merci à nos invités. Merci à Yannick Frossard et Nadia Schmirou pour la réalisation. Vous retrouvez cette émission en tout temps sur nos sites internet rjbrtn.rfj.ch. Vous retrouverez aussi le podcast. Demain, c'est Sortie de boîte qui reprend ses droits. Et vendredi, vous allez découvrir votre nouveau rendez-vous sportif Cap Sport. Dans un instant, les informations avec Raphaël Girardin. Au revoir.
Place Publique.